Béni soit le Seigneur. Oui, pour sa grâce, mon fardeau est trop lourd. Je ne sais pas si vous réalisez le poids de votre fardeau, si vous avez un fardeau ou pas. En tout cas, on sait que le Seigneur, lui, a tout pouvoir pour nous décharger. C'est vraiment sa grâce cet après-midi. C'est ce qu'il veut nous donner d'expérimenter. J'aimerais que pour cela, on ouvre la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut nous dire dans Matthieu, chapitre 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors qu'on continue cette lecture, chapitre 27, verset 1er. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà, cet après-midi, j'aimerais m'arrêter sur ce passage avec vous pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Dans ce passage, nous trouvons deux hommes qui ont trahi Jésus. Et nous trouvons des points communs entre ces deux hommes, mais en même temps, de grandes différences. Nous voyons d'un côté Pierre qui a renié Jésus, qui l'a trahi de cette manière en le reniant à trois reprises. Et nous voyons d'un autre côté Judas qui lui a trahi Jésus en le livrant. Tous les deux ont commis un grand péché. On n'est pas là pour comparer en tout cas leur péché, qui sait qui a le plus péché l'un par rapport à l'autre. Cet après-midi non plus, entre nous, dans ces moments, dans cette réunion, on n'est pas là pour comparer qui c'est qui a le plus ou moins péché. Quelles que soient les erreurs, quel que soit le passé que vous ayez, on n'est pas là pour comparer cela. Ce qui est important, c'est d'admettre que l'on a tous péché par contre. Et donc on voit que par la suite, ces deux hommes ont connu de vifs sentiments. On voit Pierre, on a terminé le chapitre 26 en voyant cette attitude, il pleura amèrement. Et on voit d'un autre côté Judas, lui, qui a été pris de vifs remords, qui fut pris de remords. Et on voit que par la suite, la grande différence... La très grande différence qu'il y a eu entre ces deux hommes, entre ces deux attitudes qu'ils ont eues. Parce que Judas, lui, est resté dans ses remords. Il a terminé, il a continué son existence en enfer et a été par la suite à jamais connu sous le nom de fils de perdition. C'est ce que la Bible nous dit. Tandis que Pierre, qui, lui, s'est réellement repenti, qui a réellement demandé pardon à Dieu pour ses péchés, lui a été restauré, lui a été pardonné. Et on voit comment par la suite, d'ailleurs, Jésus-Christ va revenir vers lui. Parce que si nous savons que Jésus-Christ, et c'est vrai, a été crucifié et mort, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est vivant. Et il est revenu, on le voit dans les évangiles, il est revenu vivant, ressuscité, vierge Pierre, pour le restaurer, pour le bénir, parce qu'il s'était réellement repenti. Et à ce moment, quand Jésus va revenir vers Pierre, il va lui poser à trois reprises la même question. « Pierre, m'aimes-tu ?» Il va lui répéter cette question à 3 reprises pour lui rappeler ce moment où Pierre avait renié Jésus à 3 reprises aussi. Mais il va pas lui rappeler, il va pas poser cette question pour le faire culpabiliser, pour le faire souffrir, lui faire du mal. Mais c'était pour justement lui donner de réaliser, de considérer la grâce de Dieu, son immense amour. C'était pour lui donner de réaliser vraiment la faveur de Dieu qui était sur sa vie, même s'il avait failli, parce qu'il s'était réellement repenti. Et on voit comment par la suite, eh bien, il va être même restauré, béni, réhabilité dans son service, le service auquel Dieu l'avait appelé à la base, pour prendre soin de l'Église de Dieu. Jésus aurait pu lui dire, c'est bien Pierre, tu t'es repenti, tu as demandé pardon, maintenant ben, voilà, dans les réunions tu vas rester au dernier rang, tu resteras tout au fond. Il aurait pu lui dire ça, mais on voit vraiment par la suite, quand on regarde dans les actes des apôtres, on voit vraiment comment Pierre a été réhabilité, a été restauré, a été utilisé, a été de nouveau utile entre les mains de Dieu. C'est lui que l'on va voir. Durant eh bien, la Pentecôte, à cette, on pourrait dire, première réunion d'évangélisation, une réunion comme celle-ci, parce qu'il y a une petite différence, il y avait 3000 personnes à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est Pierre qui va porter la parole, qui va annoncer cette bonne nouvelle, cette nouvelle que eh bien, nous entendons, nous écoutons cet après-midi encore au travers de ces passages. Et à ce moment-là, nous le voyons dans Actes chapitre 3, verset 19, Pierre va annoncer « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous donc. Pierre annonce, oui, la repentance. Pourquoi ? Parce qu'il l'a réellement vécu, il l'a expérimenté, parce qu'il s'est réellement repenti, il sait de quoi il parle. C'est pourquoi il peut annoncer, oui, eh bien, cette réalité avec assurance, parce qu'il sait que Jésus, parce qu'il sait que Dieu est celui qui pardonne, qui efface tous les péchés, tous, sans exception. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et donc on voit qu'il existe une grande différence entre les remords et une véritable repentance. Et entre cette attitude que Judas a eue, il fut pris de remords. Il est resté dans ses remords. Et parce qu'il est resté dans ses remords, eh bien, il est remords. Il est entré dans cette seconde mort. C'est quelque chose de terrible. Il était mort spirituellement à cause du péché, à cause de ses péchés. Il était à cause de cela séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle, telle que la Bible nous le définit. Et on peut très bien être en vie physiquement, mais être mort spirituellement, parce que le péché nous sépare de Dieu. Et donc, Judas était dans cette mort spirituelle, mais il est entré dans ce qu'il y a de plus terrible, dans une mort éternelle, dans un lieu de tourment, de souffrance éternelle, où il y a des regrets, des remords éternels. Tandis que Pierre, lui, a été conduit dans les projets de Dieu pour sa vie, dans les plans de Dieu, ses projets de paix et non de malheur, cet avenir, cette espérance, il l'a saisi et on sait qu'il a été sauvé, qu'il est dans le paradis sauvé par la grâce de Dieu. Et donc on voit vraiment cette grande différence, ce gouffre qui sépare ces deux attitudes. S'il y a des points communs entre ces deux hommes, il y a cette grande différence. Et cet après-midi, j'aimerais m'arrêter sur cela, afin de voir vraiment vraiment, ces deux attitudes très différentes l'une de l'autre, les regrets et la véritable repentance, ce à quoi Dieu nous appelle. Et qu'on comprenne vraiment ce qui va nous donner cet après-midi de saisir la grâce de Dieu. On voit donc dans ce passage que Judas fut pris de remords. D'autres versions disent qu'il s'est repenti. Je ne sais pas la version que vous avez, vous, pour ceux qui ont la Bible. Certaines versions disent qu'il s'est repenti à ce moment-là. Dans le Matthieu 27, verset 3. Mais on voit dans d'autres passages de la Bible qu'il y a des personnes qui se sont repenties, mais la Bible dit que leur repenti n'eut aucun effet. N'eut aucun effet. Pourquoi ? Parce que ces personnes, elles ne se sont pas repenties réellement. Elles sont repenties peut-être du bout des lèvres, mais elles ne se sont pas repenties réellement au fond de leur cœur, véritablement. Elles sont restées dans les regrets, les remords. Il n'y a pas une repentance sincère. Alors qu'est-ce que le remords ? Le remords, c'est le remords nous amène à être centrés sur nous-mêmes, en fin de compte. Le remords nous amène à regretter les erreurs commises, les choses mauvaises que l'on a pu faire. Judas a réalisé ses erreurs. On le voit dans ce passage. Il le dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais il est tourné sur lui en réalisant cela et il se tourne vers des hommes. Parce qu'il revient vers les principaux sacrificateurs pour leur annoncer cela. Ça, c'est les regrets, c'est les remords. Ils sont centrés sur l'être humain. Tandis que la véritable repentance, elle est centrée sur Dieu et sur sa grâce. Elle nous amène, oui, à réaliser, à ouvrir les yeux sur le fait qu'on a péché, qu'on a fait des erreurs, qu'on a tous commis des choses mauvaises, qu'on a fait tous le mal. Elle nous amène à réaliser qu'on a offensé Dieu. Pas simplement qu'on a fait des erreurs, mais qu'à cause de ses attitudes, on a offensé Dieu, on a blessé Dieu. La véritable repentance nous amène, à considérer qu'on a péché contre Dieu premièrement. Mais la véritable repentance ne s'arrête pas là. La véritable repentance nous amène à réaliser qu'on a péché contre Dieu, mais elle nous amène à considérer sa grâce. Elle nous amène à réaliser que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. La Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et on voit d'ailleurs ces moments, ces choses qui se sont passées juste avant que Jésus soit crucifié. Et la première parole que Jésus-Christ a donnée à la croix a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'on voit vraiment la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ de nous donner le pardon de nos péchés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand on pêche, il peut arriver bien souvent que l'on ne sache pas ce que l'on fait, qu'on ne réalise pas le mal que l'on peut faire, qu'on ne réalise pas les offenses, ce que cela peut faire dans le cœur de Dieu. C'est vrai qu'il y a des temps d'ignorance. Mais la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voilà ce que Dieu nous annonce. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle pour nous donner de saisir sa grâce, pour nous donner de saisir le pardon de nos péchés, la vie éternelle, tous ses bienfaits. On voit donc qu'il y a cette réalité, cette véritable donc repentance qui était là dans la vie de Pierre, cette véritable repentance qui amène un changement, dans nos vies. Parce que la Bible nous parle des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3, 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. La vraie repentance amène un changement dans nos vies, dans nos cœurs. Elle nous amène à avoir ce dégoût pour tout ce qui est mal, pour tout ce qui n'est pas de Dieu, pour le péché. La véritable repentance nous amène à vraiment nous séparer, à mettre une rupture avec tout ce qui pourrait être de mauvaises choses dans nos vies, de mauvaises habitudes. La véritable repentance amène un changement, une transformation. Si vous vous êtes repenti mais que vous êtes toujours le même, toujours la même, si vous êtes toujours identique, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas passé par une réelle repentance. Parce que la véritable repentance doit toujours s'accompagner de la volonté d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. C'est ça la véritable repentance. Et il est important de bien comprendre cette attitude, cette différence avec les regrets, les remords, qui amènent aucun changement de vie, aucune solution. Quelqu'un a dit, l'enfer est rempli de personnes qui ont eu des regrets et qui auront des regrets éternellement. Et je rajoute, le paradis sera rempli de pécheurs repentis. Le paradis sera rempli de pécheurs repentis, de pécheurs qui se seront repentis ici-bas durant leur vie. Le paradis ne sera pas rempli de personnes qui seront parfaites ici-bas. Parce que tant qu'on est ici-bas, personne n'est parfait. On a tous des progrès à faire, des choses à améliorer, des choses à changer. Mais pour cela, il y a la grâce de Dieu. Mais ceux qui auront eu cette attitude de véritablement se repentir recevront, oui, la grâce de Dieu d'être complètement lavés, purifiés de tous leurs péchés et d'avoir cette assurance d'être sauvés. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Alors j'aimerais pour terminer dire que, oui, dans nos vies, On le comprend au travers de ces textes. Il n'y a qu'un seul véritable problème. En fin de compte, ce problème, c'est le péché. Et l'appel de Dieu sera toujours « Repens-toi ». Repens-toi. D'ailleurs, les premières paroles de Jésus, quand il a commencé à prêcher, ont été « Repentez-vous et croyez ». Ça a été ses premières paroles. « Repentez-vous et croyez ». Et Dieu t'appelle cet après-midi à te repentir et à croire en lui, à placer ta foi en lui, à tout remettre entre ses mains, ta vie entièrement, à croire en son œuvre à la croix, à croire que Jésus-Christ à la croix est mort pour toi, est mort pour te donner le pardon de tes péchés. Parce que c'est pour cela que Christ est mort à la croix. Et que ses disciples l'aient abandonné ou pas, que Pierre les reniait ou pas, que Judas les livrait ou pas, Jésus-Christ est venu pour aller à la croix. Hein. Et que ces choses eh bien, se soient passées ou pas, il serait quand même allé à la croix. Ça a été sa volonté en venant sur cette terre, mourir à la croix pour chacun de nous, prendre sur lui nos péchés, notre condamnation. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. Et on voit vraiment la grâce de Dieu, son immense amour, sa miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais il nous accorde sa grâce parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et si nous pouvons voir dans la Bible des hommes qui se sont repentis, mais qui ne sont pas réellement repentis, hein, comme je le disais tout à l'heure, où on voit que leur repentie n'a eu aucun effet, mais on peut voir aussi des hommes qui se sont réellement repentis, hein, comme Pierre, mais comme tant d'autres. On voit tant d'exemples dans la parole d'hommes qui se sont réellement repentis, qui ont saisi vraiment la grâce de Dieu. Et j'ai pensé à David, qui exprime justement son expérience dans le psaume 32, qui nous montre, qui décrit l'expérience qu'il a faite. David dira... Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Par la suite, il continuera en disant « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Hein, à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, Dieu est celui qui veut effacer tous tes péchés. Dieu est celui qui veut effacer sur ta vie la peine de ton péché. Parce que Jésus-Christ... a porté la peine de ton péché. Parce que Jésus-Christ a porté à la croix notre condamnation. Il s'est chargé de nos péchés. Et on voit vraiment cette expérience que David a expérimentée et qu'il exprime heureux. Et c'est vrai que c'est là le véritable bonheur. C'est là le seul véritable bonheur, le seul que l'on peut expérimenter ici-bas quand nos péchés sont effacés. C'est ça qui comble nos vies, c'est ça qui comble nos cœurs, qui nous donne ce bonheur éternel. D'avoir nos péchés effacés, d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire d'avoir cette assurance d'être sauvé, de savoir que, eh bien, quel que soit notre avenir, ici-bas, nous sommes en paix avec Dieu et nous savons que nous serons avec lui dans le paradis pour l'éternité. C'est ça qui amène cette véritable joie, ce véritable bonheur, cette véritable paix. Et c'est ce que Dieu veut te donner d'expérimenter. Alors pour cela, pour terminer, admets que tu es pécheur. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché de différentes manières. Peut-être que tu n'as pas péché comme Pierre en reniant à trois reprises Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas péché contre Judas en livrant Jésus. Mais on a tous péché. Jésus-Christ a résumé ce que Dieu nous demande dans sa parole avec deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ, avec ces deux commandements, a résumé tout ce que Dieu nous demande. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un peut dire qu'il a respecté ces deux commandements, qu'il a toujours, dans sa vie, respecté ces deux commandements? Est-ce que quelqu'un peut dire cet après-midi, oui, j'ai toujours aimé Dieu de tout mon cœur? de tout mon cœur. On comprend très simplement, si l'on est sincère, vrai, que l'on a tous péché, que devant Dieu on est tous pécheurs, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Admets que tu es pécheur pour saisir la grâce de Dieu. Deuxièmement, crois que Jésus-Christ à la croix est mort pour toi, de manière personnelle, même si ces choses se sont passées il y a plus de 2000 ans. Oui, crois que Jésus-Christ à la croix a pris sur lui tes péchés, tes fardeaux, tes souffrances, mais aussi tes maladies. Et que Jésus-Christ à la croix a payé le prix pour que tu en sois libéré. Pour que le poids de la culpabilité qui pèse sur ta vie soit enlevé, ôté. Que tu sois libéré du péché et réellement libre devant Dieu. Oui, crois que Jésus-Christ à la croix est mort pour toi. Et troisièmement, repens-toi. Repens-toi. Parce que c'est une chose d'admettre que l'on est pécheur, ça n'est une autre de croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous d'une manière personnelle. Ça n'est une autre de se repentir. On voit que Judas a admis, il a reconnu qu'il était pécheur. J'ai péché, il l'a dit, il l'a prononcé, j'ai péché. Mais il ne s'est pas réellement repenti. Il a admis qu'il était pécheur pourtant. Et donc c'est une chose d'admettre, de reconnaître Jésus-Christ comme un autre sauveur. C'en est une autre de se repentir. Repens-toi. Cet après-midi, ne reste pas dans ses regrets. Ne reste pas sous le poids de la culpabilité. Parce qu'on voit que les regrets n'ont jamais rien amené de bon, mais que les regrets amènent que de choses mauvaises, des souffrances, et conduisent à cette mort spirituelle, cette mort éternelle. Mais cet après-midi, prends cette décision, prends ce choix, parce que Pierre l'a pris, Judas aurait pu le prendre, mais il ne l'a pas pris, il avait le choix aussi. Jésus-Christ à la croix est mort pour tous. Il aurait pu revenir, Judas aurait pu revenir vers Jésus, il aurait pu réellement se repentir, mais il est passé à côté, il n'a pas choisi. Cet après-midi, c'est un choix qu'il nous appartient, que Dieu nous donne, qui nous revient. C'est la grâce de Dieu. Nous avons tous le choix. Et la Bible nous dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà ce que Dieu veut. Dieu use de patience, et c'est son amour. Alors cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse terminer justement dans la prière, afin de saisir la grâce de Dieu. Cette vie nouvelle, ne pas rester dans des remords, ne pas rester dans une vie de péché, ne pas rester loin de Dieu. Mais oui, s'approcher de Dieu, saisir sa main qui est tendue cet après-midi. Dieu te tend la main, on l'a chanté. Dieu te tend la main, et quelle que soit ta vie, qui que tu sois, quel qu'ait été ton passé, on n'est pas là pour comparer les situations. Mais la grâce de Dieu est pour nous tous, sans exception. Cet après-midi, et maintenant, il te revient un choix pour saisir, faire ce pas, ce dernier pas. Jésus-Christ est venu jusqu'à nous, a fait tous les pas pour venir jusqu'à nous, nous donner de pouvoir être pardonné. Maintenant, il reste ce pas. J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de prière devant Dieu et s'approcher de lui ensemble. Éternel notre Dieu, tu es ce Dieu vivant et vrai, tu es celui qui parle à nos cœurs, tu es celui qui sauve encore aujourd'hui, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui, oui, efface les péchés, tous les péchés. Parce qu'à la croix, tu as payé le prix de tous nos péchés. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Seigneur, tu vois dans ce lieu ceux qui sont, Seigneur, fatigués, chargés, épuisés, découragés, abattus. Ceux qui, sont dans les regrets, les remords. Ceux qui n'ont pas fait ce pas de se repentir réellement, de s'abandonner entièrement entre tes mains, de t'obéir. Qui n'ont pas expérimenté ce changement de vie, ce bonheur, véritablement ce bonheur, oui, qu'il y a d'être pardonné. Je te prie d'étendre ta main cet après-midi, Seigneur, sur chacun, sur tous ceux qui sont venus, dans ce lieu, écouter ta parole. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans les cœurs, de convaincre maintenant, par ton esprit, de confirmer ta parole, d'intervenir afin que, oui, dans ces moments, plusieurs puissent choisir, que plusieurs prennent cette décision de se tourner vers toi, de se repentir sincèrement et de repartir en étant sauvé, libéré, transformé, guéri, restauré. Oui, étends ta main au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci parce que oui, tu agis. Tu es toujours le même. Tu es vivant. Merci pour ton amour et ta patience. Amen.